T'écoutes le retour des sportifs. 100% sport. Plus d'opinions, de débats dans le retour. Jusqu'à 18h. BPM Sport.
C'est l'heure de jaser avec... C'est le moment de la semaine que j'aime beaucoup. Jaser avec mon ami Hugo Savage de tout ce qui se passe dans le monde des cartes sportives. Parce que même l'été, ça arrête pas de tourner. Puis là, il a amené deux boîtes. Qu'est-ce que t'as amené, le Upper Deck Portfolio? Ça, c'est des cartes de golf, ça.
Oui, portfolio de golf. On peut avoir une auto. C'est que j'ai dit, tout à fait, quelques semaines, tu me demandes, hey, Hugo, amène des boîtes. Là, on est en été. Golf, été. On va ouvrir ça, là.
Je suis en train de regarder Happy Gilmore 2. Tu veux jouer ça, là?
Ben oui, oui. Il y a un auto. Ça serait... hey, imagine qu'on sort une Tiger Woods auto.
Alors, on part sur le party, là. C'est-à-dire qu'on fête en studio.
Ouais.
On part pas sur le party pour vrai, là. C'est une expression que j'ai, mais si vous savez comment je suis plate dans la vie, puis que justement...
Tu te couches à quelle heure, toi, le soir?
10h.
10h, c'est tard.
10h, c'est mon heure. Ouais, mais toi, t'as des jeunes enfants, toi, ouais. Tu te couches un petit peu plus tôt, n'est-ce pas? Mais là, c'est le National en ce moment à Chicago. Et je suis allé voir le line-up, suite à ton intervention de la semaine passée, des séances de signature qu'il y a en fin de semaine là-bas. Ça n'a pas de bon sens, Hugo.
Si tu prends pas le billet VIP, qu'il y a quand même 2-3 heures d'attente, t'es fou dans la tête. En tout cas, moi, je trouve.
Non, non, mais je veux dire...
T'es un vrai fan, là.
Non, non, mais c'est... Écoute, les signatures, surtout au baseball puis au football, là, ça n'a aucun bon sens. Les noms des invités qui sont là-bas, là, puis peut-être qu'on pourra en faire la nomenclature un petit peu plus tard cette semaine. Mais pour l'instant, tu voulais quand même nous parler d'une... la toute première carte recrue de Ivan Demidov qui arrive dans un produit qui est assez familial, accessible aussi. Puis que si on se fie à l'année recrue de Connor Bedard, peut quand même valoir pas mal de sous.
Oui, la première carte qui sort des nouvelles recrues, c'est toujours dans le produit MVP. Un produit en bas de 100$ taxes incluses. Donc, c'est vraiment accessible à la famille, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et pour faire le lien avec Bedard, la première recrue, la plus comme recherchée, est tout le temps, il l'appelle la SP1, le Redemption 1. Donc, tu peux avoir des cartes Redemption que tu grattes le code, t'envoies à Upper Deck te renvoie la carte.
Signée.
Non, elle n'est pas signée, mais elle est très, 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 très rare.
OK.
Puis juste te dire, cette carte-là, je viens de regarder sur eBay, en a encore à 300$ de Bedard. Puis on parle d'un produit très bas de gamme, là. Donc, c'est des cartes qui sont le fun, c'est familial, c'est ça que j'aime aussi. Donc, c'est la première carte. T'as pogné une Tiger Woods? Moi aussi, j'ai pogné une Tiger Woods. Regarde, une Tiger Woods allure ici.
Moi, j'ai pris la portfolio de Tiger Woods qui est là. Puis
déjà deux Tiger Woods, ça sonne bien.
À côté d'une Authentic Moments de John Daly. Si vous avez regardé Happy Gilmore 2, vous savez que...
Cameo.
J'ai rien dit.
Donc, c'est ça. Un produit, c'est la première carte recrue, produit familial en bas de 100$. Vous avez la chance, en tant que collectionneur ou en tant que bon parent, de pouvoir permettre à vos enfants ou à votre collection d'ajouter une belle Demidov, la première ever. Aujourd'hui, ça vaut cher. Si vous voulez l'acheter, achetez-la pas aujourd'hui, achetez-la plus tard. Ça, c'est un point important. Mais pour la trouver dans un paquet, avoir du plaisir, moi, je trouve que c'est le produit parfait.
Ben oui, ça, l'été avec les enfants, une petite journée de pluie, là, tu trouves quelques boîtes. La boîte se détaille environ à combien, MVP?
En bas de 100.
En bas de 100$.
J'ai pas le droit de le dire, vu qu'on peut dire qu'ils ont des règles bien précises.
Oui, ça, on le sait, effectivement.
On le sait quand t'es dans le domaine, mais en bas de 100$. Là.
T'as-tu trouvé quelque chose? Nicolai Hogard. Numéroté.
Numéroté sur 299.
Moi, j'ai une artefact ici de Seamus Power.
Un morceau de chandail?
Ouais.
Deux morceaux de polo, probablement.
Deux morceaux de polo.
Voilà. C'est ça qui est le fun dans le golf. Tu as des morceaux de polo, des morceaux de gants, des morceaux de grippe.
Et de grippe, tu parles des...
Du grip du bâton.
Là.
Ouais, j'ai déjà vu ça.
Et non pas du virus.
Non.
N'est-ce pas? Mais ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent tout de suite avoir la carte recrue de Demidov parce que les autres vont sortir davantage à l'automne. Il sera dans la série 1 d'Upper Deck.
Oui, ça, on avait parlé, exact.
Qui sera, quoi, somme toute, mois d'octobre.
Octobre, exact.
Oui.
Exact, dans sa Young Gun,
la carte fameuse Young Guns.
La plus recherchée.
Ça va être la folie furieuse, quand ça va sortir, c'est sûr et certain. On parle de caméos dans des films. Il y en a beaucoup dans Happy Gilmore 2, si on reste dans le milieu du golf. Mais il y en a aussi sur les cartes de sport. Puis ça finit par faire des cartes qui deviennent très prisées par les collectionneurs puis qui augmentent la valeur aussi. Puis c'est assez anecdotique également puis comique. Là.
C'est ça. Patrick Kane, là. sa première carte, c'était pas sa carte Young Gun, c'était pas sa première carte. Il était en caméo. Il était assis sur les genoux de son père. Il était assis première rangée d'une game de Buffalo-Ottawa. Patrick Kane était sur la carte de Sylvain Turgeon en 1994. Donc ça, c'est fou. Puis garde sa carte présentement sur eBay, 200$ US. Mais c'est pas sa carte, c'est la carte à Turgeon. N'importe quelle carte à Turgeon cette année-là, elle vaut 1$.
Juste parce que Patrick Kane était là à un jeune âge.
En arrière, donc c'est la première carte ever de Patrick Kane. On s'entend, là, il y avait peut-être 8 ans là, en arrière. Là.
C'est fou comment les collectionneurs, des fois, voient des trésors dans des trucs anodins, admettons.
Ça fait rare. La rareté, c'est important dans les cartes de sport. Donc ça, c'est vraiment, ça fait rare, ça fait anecdotique, c'est des anecdotes. C'est « Ah, ben oui, regarde, cette carte-là, c'est Turgeon, mais c'est-tu vraiment Turgeon? » C'est que oui, t'as tout à fait raison. Il y a aussi, par exemple, des rappers. Donc, il y a eu un rapper dans une carte de... attends, là, je suis en train de...
Non, mais je me souviens, dans le basketball...
Dans le basketball, John Morant.
Oui, dans une carte de John Morant, il y avait un rapper derrière.
Exact. Donc ça, puis le rapper est décédé. Donc la semaine que le rapper est décédé, ben, bien sûr, le monde se sont pitchés sur la carte de John Morant. Mais John Morant a peut-être pris des plis de rapper. Ça nuit un peu à sa carrière
et à la valeur
des cartes, exact.
Parce que John Morant était un des joueurs de basket qui vendait les cartes le plus cher à une certaine époque. Là, parce qu'on aime ça. Peu importe les sports... On aime ça, le prospecting. Tu sais, en gros, c'est qui la prochaine grande vedette? Tu sais, dans le monde du hockey, on le fait. Et le sport qui le fait le mieux, c'est le baseball. Les cartes Bowman, des joueurs qui sont pas encore dans les ligues majeures, valent plus cher que des cartes de stars dans les majeures. Parce qu'on se dit, tu sais, Junior Caminero, c'était comme ça. Pete Crow Armstrong, c'était comme ça, tu sais. Et là, quand il arrive dans les majeurs, là, on passe au prochain appel. On se dit, lui, là, il y a une industrie complète, tu le sais très bien.
Du prospecting clair.
Des gars qui regardent les matchs du 2A puis du 3A, puis ils se disent, lui, dans 3 ans, il va être bon. Mais là, parce qu'il est repêché, il a sa carte Bowman signée, et là, achète des dizaines et des dizaines de cartes de quelques gars pour se dire, ça, là, ça va valoir... 10 fois sa valeur dans... Il y a un de nos amis, Paul, que tu connais bien, Paul Lacourcière, a fait ça avec Jackson Churio, lui. Il dit, pense qu'il va être bon, ce gars-là.
Mais ça n'existe pas au hockey. Il n'y a personne qui va aller voir des games de junior majeur à Drummondville.
Mais t'as pas ces cartes-là Bowman au hockey. Mais on fait quand même ça en se disant, hey, je pense que ce joueur-là... Par exemple, une époque, c'était Jack Quinn. Jack Quinn, il va être bon la saison prochaine, par exemple. Et lui, il va pouvoir... fait que là, t'achètes des... J.J. Peterka a été comme ça longtemps aussi avec les Sabres de Buffalo.
On fait pas ça avec des jeunes de 13 ans. Au baseball, ils le font.
Oui, exactement. Parce que Bowman est un produit, puis il est là. Non, mais le fun d'ouvrir les paquets.
Oui, on est un peu plus distrait cette semaine, mais pour faire la suite de mes caméos, là, il y a une carte de baseball avec Kobe Bryant en arrière. Oui, une carte avec les Dodgers, bien sûr. On sait que c'est un très grand fan des Dodgers. Spike Lee sur plusieurs cartes, donc parce que lui est assis courtside au Madison Square Garden à tous les matchs. Donc, c'est sûr, ça l'aide. Et la plus connue de toutes les cartes caméo, les frères Menendez. Ils sont sur la carte de Mark Jackson, qui est un commentateur aux États-Unis de basketball. Donc, lui, c'est un ancien joueur de basket qui s'est viré vers la télé. Les deux frères sont assis sur courtside et la légende dit qu'ils avaient déjà fait le meurtre de leurs parents. Donc, les deux frères sont sur la carte courtside. Ah, un autre chandail.
Mais quelle histoire.
Sont assis courtside, avaient déjà commis le meurtre, mais ne s'étaient pas fait arrêter. Donc,
ben voyons donc.
Eux, on s'entend une famille cossue. Puis l'histoire dit qu'il aurait tué ses parents pour, etc., l'argent. Mais c'est fou, pareil. Ça, c'est vraiment la plus connue. Donc, les cartes de Mark Jackson, ça vaut pas des milliers. Mais ces cartes-là, ça vaut quand même très cher parce que, justement, il y a une histoire en arrière. Il y a une histoire de « Ah, les frères! » C'est une histoire comme tu as ça dans ta collection. Tu peux raconter une histoire à quelqu'un qui connaît pas les cartes.
Assez comique, ça. Hey, Hugo, restons avec nous. On va faire quelque chose de spécial. C'est notre dernière fois cet été. 514-790-0919. Avez-vous des questions sur le domaine des cartes ou des trucs à nous raconter que vous aimez collectionner, par exemple, tel joueur. Avez-vous des questions sur, par exemple, Hudson, Demidov, autre recrue du Canadien ou dans n'importe quel sport? T'sais, vous dites, je sais pas, moi je suis tombé là-dessus, vous voulez en jaser, ça va nous faire plaisir. 514-790-0919, on est avec Hugo Savage, puis on est prêt à répondre à vos questions. Il y en a plusieurs, dont Mathieu et Florent, qui nous demandent, c'est quoi les cartes les plus chères des Canadiens de Montréal puis des Nordiques de Québec? Dans le cas des Canadiens de Montréal, je pense qu'on peut le dire... Mais là, c'est parce qu'ils sont numérotés maintenant avec les Lane Hudson, mettons, une de une, ces trucs-là, là, mais... Sinon, je pense pas mal les recrues de Maurice Richard. Là,
ouais,
gradé haut, il n'y a pas grand-chose qui top ça. Là.
Non, non, Maurice Richard, c'est sûr. Une 3, c'est quelques mille dollars. Là, c'est que les vraiment, vraiment rares, ça va dans les dizaines de milliers de dollars, c'est sûr. Là.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je dirais la Maurice Richard 53, je pense. C'est bien ça.
Ouais, 53-54. Parce que, par exemple,
Parker, 53-54.
Une PSA 10 de Patrick Roy, c'est 10 000.
C'est 10 000. La 86 au PG.
Ouais, 10 000. Mais ça, c'est le grading, c'est important aussi, parce que 9, c'est 1000. C'est que la différence entre 9 et 10, là, c'est juste...
Parce que là, tu dis, j'ai une des meilleures versions parfaites de cette carte-là.
Exact. La carte est pareille, là.
C'est 51-52 que Pat nous dit. Mais il y en a deux, je pense, des cartes recrues de Maurice Richard.
Non, c'est les petites, là, les petites Parkers.
Ça, c'est la 51-52. Ouais, OK, ouais. Excellent. Ça va au téléphone, on a des appels. Ali, on commence avec qui?
On va commencer avec Fabrice.
Salut Fabrice.
Salut, ça va bien messieurs?
Ben, ça va bien toi?
Oui, très bien. Justement, ça fait drôle de vous parler parce que moi-même, je suis un grand collectionneur de cartes depuis plus de 35 ans.
Ben,
et
cool.
Puis voilà, c'est que c'est un beau sujet, c'est un beau passe-temps, c'est un beau hobby, effectivement.
Et toi, qu'est-ce que tu avais comme question pour Hugo Savage?
En fait, j'ai pas tant de questions parce que, comme je te le disais, je suis dans le milieu depuis tellement longtemps. Que je peux juste vous dire que c'est un beau hobby, mais à un moment donné, ben, comme toute chose, il faut passer à autre chose. Fait que, et Dieu sait qu'on en ramasse des cartes en 35 ans, puis je pense que M. Savage, je sais ça.
Ben oui, effectivement. Puis ça, c'est, tu sais, des gens qui veulent vendre des collections, puis ça arrive énormément, là, tu sais. Puis sauf ceux qui collectionnaient dans les années 90 puis qui ont gardé toutes leurs cartes, habituellement, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais des cartes.
Non.
Tu sais, des années 50, 60, 70, là, c'est, ça peut être des collections assez onéreuses. Là.
Effectivement, parce que moi, j'ai les séries des années 60, 70, 80. Bon, on oublie les années 90, même si je les ai encore, parce qu'on les garde par nostalgie, là, mais... puis là, ensuite, ben on a collectionné tout ce qui s'appelle Young Guns, effectivement, comme bien du monde.
Ouais.
Donc, Dylan Hudson, Cole Caulfield, M. Bédard et compagnie. Mais ça reste que ça prend du temps et ça prend de l'argent. Mais
oui.
Bon... C'est comme toute chose, c'est comme n'importe quel hobby. Il y en a qui aiment les motos, il y en a qui aiment les voitures décapotables, il y en a qui aiment le...
L'important, c'est d'aimer quelque chose, Fabrice, et de prendre le temps de s'y adonner. Merci beaucoup de votre appel.
Et respecter son budget aussi.
Oui, ça c'est sûr et certain.
Oui, c'est le budget, effectivement. Là, en ce moment, je suis en pour parler avec M. Larac, justement, pour peut-être me défaire de ma série, mais en fait, ma collection complète. Donc, voilà.
Ben, vous êtes en bonne main, c'est sûr, avec Big George.
Si ça marche pas, contactez-moi.
Oui, c'est une belle fin de journée, messieurs.
Salut, bye-bye.
Merci.
Bye-bye, merci bien.
Merci. On a un autre appel, Ali?
Oui, on va aller parler à Eric.
Salut, Eric.
Oui, salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Ben, c'est ça, moi, j'ai recommencé à collectionner parce que, bon... dans les années 90, j'étais au secondaire, fait que j'achetais les boîtes au Peachy ou au Score déjà toutes montées. Puis là, ben j'ai su que par après, ça valait pas grand-chose. Fait que là, j'ai recommencé à collectionner les cartes cette année. Là, je collectionne. Il y a eu des boîtes spéciales pour le centenaire du Canadien, des Bruins puis des Maple Leafs. Fait que j'essaye de les acheter à l'unité, là, c'est pas la boîte déjà toute faite. Puis des signatures de cartes, après ça, je me pars une collection, tous les joueurs, tous les gardiens de but québécois qui ont joué dans la Ligue nationale. Fait que je me monte une petite collection comme ça. Ma question, c'est que quand je pars une collection, exemple, comme pour les gardiens de but québécois, est-ce que c'est mieux d'acheter la carte recrue ou une carte quand même assez bonne?
Ben, en fait, là, je vais y aller une réponse, Hugo, t'ajouteras. C'est ta collection. C'est toi qui décides qu'est-ce que t'as le goût de collectionner. Il y a des gens qui aiment ça, collectionner des cartes de base qui valent 10 sous, puis ils se disent, moi, je vais avoir toutes les cartes de gardien possibles et impossibles. Il y en a d'autres qui se disent, non, moi, je veux, par exemple, je les veux toutes gradées PSA 10. C'est vraiment toi qui décides ce que tu veux avoir dans ta collection, ce qui te branche puis ce qui t'enchante.
Moi, je commencerais par n'importe quelle carte de tous les gardiens du Canadien. Puis après ça, tu dis, OK, mais celle-là, je veux la recrue. Puis là, une fois que tu as toutes les cartes de tous les gardiens, une fois recrues, là, tu dis, OK, mais j'ai vu les mieux gradés. C'est que tu pourrais, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, là, parce que sinon, ça va coûter cher, là, si c'est tout le temps recru. Là.
C'est sûr et certain.
Ouais, ben c'est ça. J'ai, tu sais, une carte qui coûte, mettons, 100-200 piastres, je mettrais pas ça, je mettrais pas de l'argent là-dessus, mais j'essaie de prendre, mettons, une carte la plus proche de son année recrue, qui est quand même assez belle, là, pis tout ça, pis là, ben, je la mets dans ma collection.
Ben, excellent, ça. Merci beaucoup de ton appel, puis bonne chance dans ta chasse au trésor. C'est un beau projet, c'est sûr et certain.
C'est bon, merci.
Salut, merci à toi. Il y en a beaucoup. On va aller au téléphone, puis après ça, on répondra à une question qu'on a énormément sur la messagerie texte. On continue avec.
C'est un dernier appel qui vient de Carl.
Salut, Carl.
Oui, salut, ça va?
Ça va bien, toi?
Ah ouais, merci. Beau sujet. Je veux pas penser pour un incube, mais il me semble dans le temps, il y avait des béquettes qui donnaient les valeurs aux cartes.
T'es pas un incube du tout.
Ça se peut-tu que... C'est comment qu'on fait pour avoir la référence des valeurs de cartes maintenant?
Je te laisse, Hugo, 100% répondre à ça.
Le béquette, c'était vraiment bon avant qu'Internet arrive. C'était vraiment 100% ça. Même moi, je suis encore abonné au béquette. Je paye quelques centaines de dollars.
Oui,
à toutes les années. Puis, par contre, là, à cette heure, c'est vraiment eBay. eBay, les cartes sont tellement volatiles. Ça change tellement d'année en année. Donc, c'est vraiment important de... Ça change de jour en jour, on s'entend, là, les prix. Là. Donc, c'est eBay...
Ça se trouve être la référence, ça se trouve être eBay.
Ouais, parce que les gens vont déterminer la valeur selon
le prix que le monde paye.
Selon le prix des dernières cartes vendues, admettons. Donc, si tu t'en vas sur eBay, tu regardes les items complétés, par exemple, et tu vois que, je sais pas, la carte s'est vendue dans les 10 dernières ventes en moyenne à 100$, ben les gens vont dire cette carte-là vaut 100$. Tu comprends?
Puis le béquette, ça se peut que ça fasse. Ça fait 6 mois qu'il est imprimé, puis lui, il est à 40 ou il est à 200. Là.
C'est ça, exact.
OK, ben c'est cool, merci. Je pense que c'est super intéressant.
Important de regarder les vendus, par contre, parce qu'on peut afficher... Moi, je peux afficher une carte qui en vaut 10, je peux l'afficher 200. Souvent, les gens m'écrivent, « Hugo, j'ai cette carte-là, ça vaut-tu vraiment 500? » Mais tu peux l'acheter à 10, mais il y a quelqu'un qui l'a affiché 500.
Vous pouvez cliquer sur « Item complété » sur eBay, puis c'est là que vous allez avoir la bonne donnée. Merci beaucoup de ton appel.
OK, cool, merci.
Salut, bye-bye. La question qui revient beaucoup, là, puis je sais que Georges en parle souvent en onde avec Johan Benaroche aussi. Pourquoi les cartes des années 90 valent rien? La réponse est assez facile.
La surimpression.
Ils en ont imprimé. Tu sais, aujourd'hui, mettons le SP Authentic qui va sortir, par exemple. Ils disent qu'il va avoir X nombre de milliers de boîtes imprimées. Après ça, c'est tout. Puis il y a des cartes numérotées là-dedans, puis tout le reste. Dans les années 90, là, ils en imprimaient, puis ils en réimprimaient. Puis en réimprimait, puis encore, puis peut-être 5-6 fois comme ça, la même année. Fait qu'il y en a, là, des cartes partout. Ce qui fait qu'il n'y a aucune rareté, ce qui fait que ça vaut vraiment pas grand-chose.
100%. J'ai rien à rajouter.
Incroyable, Hugo. On te suit sur Consignation Savage. Il faut aller voir les cartes Savages aussi sur les différentes plateformes de médias sociaux. Bon National en fin de semaine. Tu vas suivre ça, tout ce qui se passe là-bas. Puis écoute, on te réinvitera ici à BPM la semaine prochaine.
Merveilleux, merci, j'apprécie.
Salut, Hugo.
Merci.
Hugo Savage, notre collaborateur des cartes.